Alors, je voudrais commencer de manière un peu provocante en disant qu'on vit une étape de l'humanité intéressante et je voudrais vous faire rapidement un panorama de l'histoire de l'humanité en trois tableaux avec la parabole de Lazare. Voilà. La parabole de Lazare. On me demande de parler dans le micro, comme vous l'avez constaté, c'est pas pour la sono, mais c'est parce qu'il y a monsieur qui enregistre. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent en plus que ça pourrait être intéressant. Bon, peu importe. Alors, la parabole de Lazare, elle dit quoi? Elle dit eh ben, qu'il y avait un pauvre qui était au pied de la maison d'un riche, que ce pauvre n'avait pas accès naturellement à la table du riche, et que le riche même s'en contrefichait éperdument, tant et si bien que son chien, dit-on, venait lécher les plaies des pauvres. Voilà, ça c'est le début de la parabole. Et on pourrait dire que c'est un peu la première étape de l'humanité, ça c'est moi qui le dis. C'est-à-dire, en fait, cette première étape, d'ailleurs, elle subsiste jusqu'à nos jours, elle subsistera jusqu'à la fin des temps, parce qu'il ne faut pas être trop manichéen, mais en fait, c'est, on pourrait dire, toute l'humanité dans ce qu'elle a de lourd et de pathos entre deux populations qui ne se rencontrent pas, des riches et des pauvres qui vivent les uns à côté des autres et qui ne s'intéressent pas les uns aux autres. Enfin, si, le pauvre, d'ailleurs, s'intéresserait volontiers à ce que mange le riche, mais le riche, lui, ne s'y intéresse pas. Et puisque le chien du riche vient lécher les plaies des pauvres, ça veut dire que même les hobbies du riche viennent nuire aux pauvres. Et ça, je pense que ça dit quelque chose de très profond dans notre société. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut le dire, hein, il y a quand même des personnes dont le simple hobby vient augmenter encore le mal-être de certains sur notre terre. C'est tout, par exemple, l'encyclique Laudato Si, où le pape dit tout est lié et la richesse des uns et la pollution des uns ne fait qu'accentuer évidemment les dérives climatiques et toutes les misères sociales qui en découlent. Donc, première étape de l'humanité, on pourrait dire la domination et le mépris. Voilà. Deuxième étape de l'humanité, la révélation. Jésus, il est venu et il nous a apporté un message très singulier. Et en fait, il nous a invités à une rencontre. Et je voudrais associer à cette deuxième étape de l'humanité les ordres mendiants. C'est-à-dire, bien sûr, les dominicains, il y en a un ici, donc je suis obligé de le dire. Les franciscains, ô combien. Tous ces gens qui se sont faits pauvres, alors qu'ils étaient riches, ils se sont faits pauvres pour découvrir la richesse des plus pauvres. Voilà, c'est un peu le fruit quand même d'une révélation. Et on pourrait dire un accident de l'histoire parce que rien ne va comme ça dans l'histoire de l'humanité. En principe, ça ne marche pas comme ça, quoi. Les riches restent riches et deviennent davantage riches. Et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Donc la deuxième étape, c'est cette révélation du Christ et l'idée qu'il faut de certaine manière se dépouiller de sa propre richesse pour se faire proche du pauvre. Et puis il y a une troisième étape. Alors c'est là où vous allez peut-être me trouver un peu gonflé. Cette étape, pour moi, c'est un peu l'étape, on pourrait dire, des colocations solidaires. C'est-à-dire, on a passé encore un cap où il ne s'agit pas de prendre soin des pauvres. Bien sûr qu'il faut en prendre soin. Il faut accepter de vivre avec. Voilà. Ça, c'est quand même complètement nouveau. C'est-à-dire, enfin, c'est nouveau, ça a quelques décennies maintenant, hein. Et en fait, à qui on doit cette inspiration? Eh ben, on peut dire à l'Arche et à Jean Vanier. Parce que, d'une certaine façon, le premier, il a accepté de vivre avec des personnes malades de psy et d'en faire son habitat. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement une vocation religieuse comme les franciscains, les dominicains et tout ça, mais c'était, on est tous appelés, nous, simples laïcs, simples personnes engagées, à partager le destin des plus pauvres et on peut en recevoir du bonheur. Voilà un peu cette troisième étape. Il y a plein de manières de le vivre, et bien sûr qu'on n'a pas attendu les colocations solidaires pour le vivre, mais en tout cas, c'est un phénomène à la fois nouveau, innovant et qui se répand. Alors, il se répand, je l'ai dit tout à l'heure pendant la table ronde, de manière nationale et internationale, mais il se répand aussi parce qu'il y a plein maintenant de visages de ces colocations solidaires. Il y a des colocations inter-âges, il y a des colocations en fonction de certaines pathologies, il y a des colocations avec des personnes sans papier. Bon, il y a un certain nombre de choses qui voient le jour où on voit ce désir de vivre ensemble, de ne pas vivre pour soi, de vivre ensemble. Et donc, ça, c'est si l'on peut dire, un des fruits inattendus de l'Arche. Pour moi, l'Arche, c'est un tronc. Jean Vanier, Il a fondé un truc qui s'appelle l'Arche, qui est un tronc commun. Et puis est venu se greffer sur ce tronc un certain nombre de greffons, de branches, nombreuses, et qui, toutes selon leur charisme et selon leur tonalité, viennent puiser à cette même sève. Voilà. Alors, quels sont les points communs, on pourrait dire, qu'on trouve dans l'ADN de l'Arche et qu'on retrouve à peu près dans tous les greffons? C'est ces sept points-là que je voudrais évoquer, et puis après on parlera de manière plus libre. Un premier point, c'est le caractère durable de la démarche. Jean Vigny raconte ça. Il dit, quand j'ai proposé aux deux premières personnes handicapées mentales de sortir à l'époque d'un hôpital psychiatrique, parce qu'à l'époque il n'y avait rien pour eux, donc on les mettait à l'hôpital de psy, Jean Vigny dit, j'ai eu le sentiment que je faisais un acte irréversible parce que je ne pourrais pas les ramener dans leur hôpital. Donc je les prenais chez moi et ce serait d'une certaine manière pour toujours. Évidemment, ce n'est pas vrai aujourd'hui des colocations solidaires. On ne devient pas coloc solidaire à Lazare ou à Lapa ou ailleurs pour toujours. Mais on s'engage dans une démarche dans la durée. Et ça, c'est important. Je voudrais raconter une histoire récente d'un volontaire de Lapa à Paris qui m'a dit ça. Qui m'a dit, en fait, moi j'ai commencé dans les maraudes et j'aimais passer du temps avec des gens de la rue, leur parler, etc. Mais à chaque fois, j'étais un petit peu peiné, blessé, parce que je les laissais dans leur merde, en fait. À la fin, on avait passé un bon moment, on avait échangé, mais je les laissais à leur triste sort. Et quand il est devenu volontaire à l'APA, il dit, pour la première fois, je l'ai installé dans sa chambre, on a mis des posters dans sa chambre, et je savais qu'il resterait avec moi. Donc ça, pour moi, c'est très beau. C'est-à-dire, on accepte d'accompagner quelqu'un dans la durée, et si c'est pas pour toute la vie, l'association elle-même, elle s'engage dans la durée. Donc aujourd'hui, que ce soit l'Arche ou Lazare, ou, voilà, on a des colocs qui ont plus de 10 ans de vie de colocation, et on leur dit, tant que vous êtes bien ici, tant que vous y êtes heureux, vous pouvez rester. Il n'y a pas de limite. Si tu te renfermes sur toi-même, si tu transgresses le règlement, il y aura peut-être des difficultés, et peut-être qu'on te demandera de partir. Mais tant que tu y es bien, et que tu es heureux ici, et que tu t'épanouis, tu es le bienvenu, sans limite de temps. Voilà, ça c'est un des points majeurs de ce système. Deuxième point, l'idée qu'il n'y a pas besoin d'être un héros ou un saint pour faire ce genre de truc. Souvent, quand je fais moi-même ce genre de topo ou de conférence, je peux être gêné parce que les gens disent « Waouh, c'est quand même vachement beau, c'est vachement bien. » Et d'une certaine manière, j'aime pas ça parce que ça met les choses à distance. Ça veut dire, en fait, si c'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour moi parce que moi, je pourrais pas le faire. En fait, c'est un peu le contraire. Tout le monde, on avait fait un clip un jour pour Lazare qui disait ça. « Tout le monde peut devenir coloc. » Bon, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont très fragiles et pour qui ce n'est pas forcément adapté. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'être un héros ou un saint pour devenir colocataire. Et un jour, justement, il y a quelqu'un qui a dit à Jean Vigny, mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que vous êtes un saint? Alors il s'est marré d'abord et puis après il a dit, mais en fait, j'aime pas ça. Parce que si les assistants de l'Arche, ce sont des saints, ça veut dire que ce n'est pas pour moi. Ça veut dire que c'est inaccessible. Alors en fait, le modèle de l'Arche, justement, c'est que c'est une arche sous laquelle on peut passer, même si on est tout petit, tout fragile, tout penaud, tout pas bien, tout ce qu'on veut. C'est, voilà, souvent, à l'Arche, on dit l'Arche des petits et des faibles. Donc c'est un modèle qui est assez, c'est pour ça aussi qu'il se répand, c'est qu'il est accessible finalement à beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens, je l'ai dit, qui veulent sortir de la solitude, qui veulent sortir du non-sens, qui veulent sortir d'une société de consommation et qui trouvent là, quelque chose qui a du sens, on est ensemble et on peut le vivre, quelles que soient ses qualités. Un troisième point, c'est la découverte que la vie partagée avec les plus faibles, on y vient d'abord parce qu'on a parfois le sentiment d'être un peu le bon samaritain. Alors je viens avec cette idée que je vais aider. Et c'est vrai qu'on vient aider. Et en fait, il y a cette découverte petit à petit qu'on y reste, non pas pour aider, mais on y reste parce qu'on s'y trouve bien et parce qu'on y reçoit. Voilà. Ça, c'est la grande découverte de la spiritualité de Jean Vanier. C'est que je venais pour faire du bien autour de moi et en fait, je vois que ça me fait du bien. Bon, en fait, c'est un mouvement, bien sûr. Hein. Mais c'est assez important. Un jour, il y a un prélat du Vatican qui a dit à Jean Vanier ça. Il a dit, l'Arche a permis à l'Église de faire une révolution copernicienne. C'est-à-dire, on n'est plus là pour faire du bien aux pauvres, mais on est là pour découvrir combien le pauvre me relève. Voilà, me révèle ma propre humanité, le propre sens de mon histoire. Voilà. Un quatrième point, Jean Vanier a écrit une véritable bible de la vie communautaire qui s'appelle « La communauté, lieu du pardon et de la fête ». Je voudrais m'arrêter sur ces deux termes, le pardon d'abord et la fête. C'est assez intéressant de commencer par le pardon. En fait, la vie ensemble, il faut dire la vérité, c'est d'abord une vie où on va se confronter les uns aux autres, où il y aura des... Comment dire ? On va se blesser les uns les autres. C'est vrai d'une vie conjugale, c'est vrai d'une vie de famille, c'est vrai d'une vie communautaire. Les religieux ici, s'ils étaient honnêtes et transparents, ils diraient que plusieurs fois par année, je suppose, ils veulent s'entretuer, probablement. voilà. Il y a l'idée que dans la vie ensemble, même si on est extrêmement délicat, attentionné, gentil, tout ce qu'on veut, on se blesse, on se vexe, on se gêne. Et donc il y a ce moment du pardon qui est un peu comme le ciment de la vie communautaire. Voilà. Un jour, il y a un ancien assistant de l'Arche, comme ça, on lui dit « Qu'est-ce que tu as appris à l'Arche ?» Alors la personne, elle s'attendait à avoir une réponse un peu homélitique du genre « des choses très belles, quoi ». Et l'ancien assistant dit « À l'Arche, j'ai appris qu'au fond de moi, j'avais l'envie de tuer. » Et en fait, c'est très vrai, parce qu'on est différent. Il peut y avoir les cris de certaines personnes handicapées qui réveillent des choses, qui touchent un peu au nerf, etc. Bon, évidemment que l'envie de tuer, elle est au fond de nos cœurs, elle est aussi en nous. Bon, et donc, il ne faut pas idéaliser la vie communautaire. Elle est faite aussi de ses blessures et de ses envies de tuer. Bon, et elle est faite aussi de ses pardons. Donc ça, c'est un des ciments. Et c'est vrai que je pense que ces colocations aussi, elles fonctionnent parce que ce pardon, il est possible. Dans une communauté qui serait absolument... j'allais dire laïque et sans espérance chrétienne, moi je ne sais pas comment on fait. En fait, s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a jamais de moment de réconciliation, je ne sais pas très bien comment on pourrait faire. Et puis il y a aussi le moment de la fête. Alors le moment de la fête, c'est un besoin très profond dans le cœur de l'homme, où on a besoin de célébrer ensemble, célébrer le fait d'être ensemble, célébrer les anniversaires, célébrer le moment de notre rencontre. Il y a une personne de la rue comme ça un jour dans une intervention publique qui prend le micro qui dit « Je voudrais dire qu'avec tel volontaire ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on s'est rencontrés. » Bon, c'est vachement beau. C'est-à-dire que lui, il a gardé la mémoire du jour de cette rencontre. Bon, voilà, le pape François, il nous appelle à faire mémoire de la date de notre baptême comme quelque chose de très précieux. Bon, voilà, célébrer nos rencontres, le jour de l'arrivée dans une colloque, le jour... de ma naissance, comme quelque chose qui est une bonne nouvelle. Ta naissance, quel que soit ton handicap, ton parcours à la rue, etc., ta naissance, ta vie est une bonne nouvelle. Et elle mérite d'être célébrée. Alors ça, c'est quelque chose de très profond qui fait aussi, ou qui devrait faire, la magie de nos vies communautaires. J'en venais à cette phrase très belle qui dit « Pas de Dieu sans fête, pas de fête sans Dieu ». Je répète, pas de Dieu sans fête, pas de fête sans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas de Dieu sans fête, on voit assez bien ce que ça veut dire en Europe, parce qu'on a eu le jansénisme, et souvent on avait Dieu, mais franchement, c'était quand même pas super facile à vivre. C'était fait de beaucoup de renoncements, de sacrifices, d'expiations, et c'était quand même tout ça un peu triste, et il fallait surtout pas faire la fête. La fête, dans le meilleur des cas, la chose promise à la fin des fins dans le royaume. Et puis, pas de fête sans Dieu, ça on voit encore assez bien ce que ça veut dire en France, parce qu'évidemment, on a quand même cultiver beaucoup de fêtes, mais où Dieu est absent, et on voit dans ces fêtes beaucoup de désespérance. Voilà, la technoparade et tous ces trucs, tous les festivals à base de musique, etc. Bon, on voit une forme de désespérance qui est presque visible sur les visages. Il y a de la fête, mais en fait, c'est d'une tristesse absolue. Charles de Foucault, dans sa jeunesse, avant sa conversion, il s'est converti en fait dans l'une de ses fêtes. Il y a un moment, il se rend compte que tout ça ne le remplit plus. Il est puissamment fortuné, il boit, il mange, il a probablement des aventures amoureuses nombreuses, mais tout ça ne le nourrit plus, et il y a une forme de désespoir. Et c'est le début d'un changement de vie en fait. Donc pas de Dieu sans fête, pas de fête sans Dieu. Et donc ça, voilà quelque chose qui est un peu dans l'ADN de ce qu'on souhaite vivre. Et puis il y a trois piliers, en tout cas c'est trois piliers qu'on énumère assez souvent à Lazare et qui viennent aussi un peu de ce tronc de l'arche. Le premier, c'est la sobriété. Alors c'est quelque chose qui est redevenu un peu sur le devant de la scène avec l'encyclique Laudato si. Mais c'est quelque chose de très utile pour nous qui vivons avec des personnes de la rue. Parce que précisément, les moyens sont faibles. nos moyens sont faibles. Donc quand on sort, on ne peut pas nécessairement aller au bowling ou au cinéma, etc. J'aurais plein d'anecdotes en ce domaine, mais souvent un jeune volontaire, il arrive dans une coloc Lazare et dit à un gars de la rue « Tiens, et si on allait à la piscine ensemble ?» Et le gars, il dit « Mais les 2 euros pour la piscine, je ne les ai pas, moi. » Bon, alors c'est le début d'une question, quoi. Donc il y a nécessairement la recherche d'activités qui sont sobres, en sens qu'elles sont peu coûteuses. Alors qu'est-ce qu'on va privilégier? Bon, on va privilégier une balade, ça coûte encore en rien, à la montagne, en campagne, en forêt, n'importe. On va privilégier des jeux de société, on va privilégier toutes sortes d'activités qui ne sont pas nécessairement argentées. Et on voit, et on essaye d'expérimenter cette phrase du pape qui dit « on voit que dans moins, il y a plus ». Dans moins, il y a plus. C'est-à-dire que dans moins d'argent ou dans moins de quantité, il y a souvent en fait plus d'humanité. Et un jour, je lisais un article sur Internet qui disait qu'on avait interrogé les gens sur leurs 7 plus grands bonheurs dans leur vie. Je crois que ça s'adressait d'ailleurs à des gens en fin de vie, un truc comme ça. On les interrogeait sur quels ont été vos 7 plus grands bonheurs. Il n'y en a aucun qui a trait à l'argent, au pouvoir ou à la richesse. C'est pas vrai. Jamais la personne dit « Mon plus grand bonheur, ça a été d'acheter une maison. » Jamais. Elle dit « Mon plus grand bonheur, ça a été cette balade en campagne avec mon petit-fils. Ça a été de partager un saucisson avec mes frères à telle occasion, après la mort de maman. Ça a été ceci, cela. » Bon, je vous passe le détail, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, on pressent, en écoutant en particulier les anciens, que le fond de notre vie, de notre bonheur, sera pas d'abord lié à l'argent. Le manque d'argent peut être une source de malheur, il n'y a pas de doute, mais le trop d'argent aussi. Et du coup, en tout cas, il y a la recherche d'un bonheur dans la sobriété. Alors on dit à nos volontaires, à Lazare, tu peux pas venir avec trop d'affaires. Tu peux pas venir avec trop d'affaires. Chez nous, tu vas occuper une chambre qui va faire 10-12 mètres carrés. T'es avocat, t'es médecin, t'es ce que tu veux. Mais tu peux pas venir avec 2 chaînes IFI, 3 Mac et tout ton attirail. Tu dois venir... Idéalement, on lui dit avec 2 valises et tu dois être prêt à déménager en 2 heures. Ça donne un ordre d'idée. Comme ça, il vient léger. Et du coup, il partage. Enfin, il a une chambre à lui, bien sûr. Et il partage une cloison avec un gars de la rue qui est la chambre d'après. Et du coup, il n'y a pas trop de dissemblance. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une chambre où il y a un véritable musée, puis une chambre où il n'y aurait rien, quoi. Donc, ils sont tous les deux un peu à la même enseigne. Donc, la sobriété. Et ça aussi, ça fait partie de l'aventure, quoi. Je trouve que c'est assez sympa, l'idée de dire, bah, pour un temps, bon, on n'est pas obligé de devenir volontaire pour 50 ans, hein, mais pour un an ou pour 2 ans, je vis de manière un peu roots, quoi. Un peu scout. Deuxième pilier à Lazare, la parité. On accueille une personne de la rue dans nos apparts pour autant qu'on a un volontaire. Parce que sur un appartement de 8 personnes, on ne voudrait pas se retrouver avec 4 personnes de la rue et 0 volontaire ou un seul volontaire. Donc on essaye toujours de faire du 1 pour 1. Et c'est vrai que ça a été un peu le sentiment de Jean Vanier aussi à l'origine de l'Arche. Il souhaitait idéalement qu'il y ait un assistant pour une personne handicapée. C'est plus ou moins vrai suivant les foyers, mais en gros c'est un ordre d'idée. Et c'est vrai que c'est bien parce que du coup ça fait des relations de personne à personne. On peut faire des binômes. On peut, voilà. Troisième point, la prière. Troisième pilier de Lazare, la prière. En fait, notre engagement, il serait difficile à tenir dans la durée sans la prière. Parce que comme je l'ai dit, bon, il y a les frictions, il y a le pardon, mais il y a aussi à un moment donné le choix intérieur de ce chemin. Et donc on demande à nos volontaires, qui en prennent l'engagement, de réciter les laudes tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi. C'est assez exigeant parce que du coup, ils se concertent pour se dire à quelle heure on se retrouve pour les laudes. Donc on s'aligne sur le moins 10 ans. Donc le mec qui dit « mais moi je commence à 8h, donc je dois faire les laudes à 7h », tout le monde dit « ok, on y sera à 7h ». Bon, donc c'est quand même assez péchu aussi. Et donc du lundi au vendredi, les laudes ensemble dans la chapelle, en présence du Saint-Sacrement. Il y a également un petit moment d'adoration qui est proposé à la fin de ces laudes, et en principe un moment d'adoration chaque semaine un peu plus long le dimanche soir. Pourquoi c'est fondateur? Parce que les laudes, comme vous le savez, c'est la récitation des psaumes. Et en fait, dans la récitation des psaumes, il y a un peu tous les sentiments humains qui viennent s'installer. Et donc le volontaire là qui en bave parce qu'il y a Jean-Claude qui est à côté, qui fait du bruit, qui n'a pas été gentil, qui est ingrat malgré tous les efforts qu'on fait pour lui, bon... Et ben le volontaire là, il lit les psaumes et il dit « Seigneur, mon refuge, ma forteresse ». Et en fait, il peut dire au Seigneur tous ses sentiments parfois d'injustice, de ras-le-bol, de trop-plein, et aussi d'exultation, parce que dans les psaumes, il y a la joie, la jubilation, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et donc, Cette récitation des psaumes, elle alimente, elle nourrit ce compagnonnage avec le plus fragile. Et je pense que très souvent, on a des volontaires qui disent « Mais pourquoi les psaumes ? On pourrait faire autre chose, on pourrait faire de la louange, on pourrait faire du silence, on pourrait faire l'oraison. » C'est vrai qu'il y a mille manières de prier. Mais en fait, on tient à ça. D'abord, on dit « C'est la prière de l'Église », donc on est en lien avec toute l'Église. Et deuxièmement, parce qu'en fait, c'est le lieu où vous pouvez dire « Mais tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez dans votre collocation, vous le dites au Seigneur. » Et puis, plus profondément, les psaumes, comme vous le savez, ils parlent du Christ, en fait. Hein, c'est des messages prophétiques, annonciateurs de la figure du Christ. Donc, le Christ priait les psaumes, ça c'est vrai, mais tous les psaumes des saints Thomas d'Aquin parlent du Christ, en fait, et sont la prière même du Christ. Et donc, c'est pour ça que le Christ en croix, par exemple, va lui-même réciter les psaumes. « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, qui est, en fait, la reprise d'un psaume, et dont on voit à la fin du psaume quelle est la réponse. En fait, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, tu vas me sauver. Bon, mais c'est une espérance qui viendra après. Voilà, et donc du coup, ben, on tient beaucoup à ça. Alors après, là, la prière, elle s'incarne de plein de manières. À l'Arche, il y a plein de personnes handicapées qui ne savent pas prier les psaumes et qui ne peuvent pas. Alors, par exemple, dans un foyer de l'Arche dans lequel j'ai été quand j'étais assistant, on faisait passer une bougie, comme ça, à chacun des personnes, à chacune des personnes. Et puis, il y a une personne qui disait, bah, je prie pour ma tante... qui est malade. Puis le suivant, il disait rien. Puis le troisième, il disait aujourd'hui, je prie pour tous les cons qui m'entourent. Genre, il y a une personne handicapée qui a dit ça. Je prie pour tous les cons qui m'entourent. Mais en fait, c'est un bon résumé. C'est un peu la synthèse. Je peux même terminer là-dessus parce que c'est un peu la synthèse. En fait, on est un peu une bande de voilà de pauvres ensemble, mais ces gens choisissent de cuisiner, de vivre, de prier ensemble et de prier les uns pour les autres. Malgré toutes les blessures, et ça a du sens. Voilà. J'ai fini.